Les gravillons crissent sous les pas de Joanne alors qu'elle se dirige avec lourdeur vers le camping-car. Cela fait déjà plusieurs jours qu'elle se prépare, non sans appréhension. C'est un rituel. Après le travail sur le chantier, elle quitte le domaine et grimpe dans le camping-car. Elle s'oblige à rouler quelques minutes sur les lacets de montagne. Elle n'a plus le choix. La portière s'ouvre avec un léger grincement et Joanne se hisse à l'intérieur derrière le volant. Elle a toujours cette fichue impression d'être minuscule et incapable de diriger l'engin. Dans le jour qui décline derrière les vallons, la portière claque et les phares s'allument tandis que Joanne met le contact. Avant de quitter le petit chemin gravillonné, elle jette un coup d'œil vers l'annexe dont la petite fenêtre de la cuisine est allumée. Rebecca et Emma sont en pleine préparation de leur repas de revoir. Émile n'est pas là. Il est resté dans sa chambre. Elle a lancé aux filles en sortant « Jetez un coup d'œil sur lui, j'en ai pour 20 minutes, pas plus. » Le camping-car quitte le chemin lentement. Elle a toujours du mal à passer la deuxième. Elle n'a jamais vraiment conduit. À Saint-Suliac, elle se déplaçait toujours à pied ou à vélo. Joseph avait insisté pour qu'elle passe son permis, car à l'époque, il ne savait pas encore qu'elle reprendrait le poste de gardien à l'école. Il pensait qu'elle aurait besoin d'une voiture pour chercher du travail. Elle l'avait obtenue, mais elle n'avait jamais conduit. Il n'avait pas de voiture là-bas. Aujourd'hui, pourtant, elle est bien forcée de s'y remettre. Les réflexes d'Émile sont de plus en plus lents, et puis il y a ces malaises qui peuvent survenir au volant. Elle s'élance avec prudence sur la petite route de montagne. Elle est crispée derrière le volant, mais elle sent qu'elle progresse, qu'elle est déjà moins tendue. Sa conduite est devenue plus souple. Elle se répète quelques mots que son père lui disait quand elle était gamine.
Puisqu'on ne peut pas changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles.
C'est une phrase de James Dean. Elle aime se la rappeler quand elle a besoin de croire en elle, que les choses lui paraissent difficiles. Ça sonne comme un encouragement. S'adapter, c'est s'en sortir. Il faut savoir réorienter ses voiles, toujours.
C'est pour qui cette carte ?
Ça y est, ils ont quitté le domaine, Hippolyte, Emma et Rebecca. Avant de prendre la route en direction de l'Esquin, ils se sont arrêtés dans le petit centre-ville d'Ass. Centre-ville est un bien grand mot, car en réalité, Ass ne compte pour tout commerce qu'un tabac-presse. Joanne a pris soin de choisir une carte postale représentant une jolie cabane de berger dans une vallée recouverte de neige. Elle s'efforce de la rédiger sur le comptoir du commerçant afin de pouvoir la poster d'ici avant de reprendre la route. Le commerçant les observe étrangement. Sans doute à cause d'Émile qui jette des coups d'œil partout et semble un peu déboussolé.
C'est pour Sébastien,
répond Joanne sans lever le nez de sa carte postale.
C'est qui Sébastien ?
Il est en train de passer la main au milieu des magazines et Joanne lui fait les gros yeux car le commerçant les observe d'un œil mauvais.
Un ami.
Pourquoi tu lui écris ?
Elle tente de reprendre son écriture tout en lui répondant.
Je lui ai fait la promesse que je lui écrirai depuis chaque endroit où l'on irait.
Émile se penche par-dessus son épaule pour essayer de décrypter ses mots.
Tiens, dit-elle en lui tendant la carte. Tu ne voudrais pas signer en bas ?
Il la regarde étrangement.
Pourquoi je signerais ? Je le connais pas.
C'est pas grave. Il sait que je voyage avec toi.
C'est pour ça que tu lui parles de moi dans la lettre ?
Oui, c'est pour ça.
Elle lui met le stylo entre les mains.
« Tiens, signe en bas, ce serait gentil de ta part. »
Il s'exécute de bonne grâce. Cet Émile-ci est doux comme l'autre. Le carillon tinte lorsqu'il pousse la porte du petit tabac-presse.
« Au revoir, monsieur !»
lance Joanne.
« Au revoir, bonne journée !»
Il se retrouve sur le trottoir. Le camping-car est stationné juste devant.
« Joanne ?» demande Émile.
Oui.
Elle déverrouille les portières et se tourne vers lui, les clés à la main.
Je crois que j'ai des trous de mémoire.
Elle tente de prendre un air désinvolte et léger. Toujours rester légère, c'est la règle. C'est ainsi qu'Émile traverse sa maladie sans trop d'angoisse.
Ah oui ?
Ouais.
Et pourquoi tu penses cela ?
Ce Sébastien...
Il la regarde avec des yeux pleins d'interrogations.
Je suis censé le connaître, non ?
Elle hausse les épaules.
Tu crois ?
Ouais, je crois. Et toi aussi, non? Je suis censé te connaître.
Il a un regard de petit garçon, un regard plein d'attentes et de questions. Et elle lui ébouriffe les cheveux avec affection.
Peut-être bien, mais tu sais, ça n'a aucune importance.
Elle l'encourage à monter dans le camping-car, mais il reste figé.
C'est sûr ?
Demande-t-il. Elle acquiesce, toujours avec douceur. Elle aime ce nouvel Émile, ce petit garçon qu'il est en train de redevenir. Elle l'aime tout autant que l'autre, celui qui est resté coincé, là-bas. Au fond, sont-ils vraiment deux Émile différents ?
C'est sûr, je te promets. Allez, monte, on a de la route à faire.
Il obtempère de bonne grâce. Il a l'air rassuré.
On va où, Joanne ?
Ils ont repris la route. La carte routière des Pyrénées-Atlantiques est étendue sur le tableau de bord et Joanne y jette des coups d'œil réguliers.
On va à Lesquin. Tu sais, c'est ce petit hameau dont Hippolyte a parlé.
Il hausse les épaules. Il ne se souvient pas.
Tu vas voir, on sera bien là-bas.
On va y faire quoi ?
On va habiter avec d'autres gens et on les aidera à faire vivre la communauté. On pourra participer à la mise en place de la permaculture ou à d'autres tâches.
Il tourne un regard anxieux vers elle.
Et après, on rentrera à Roanne ?
Elle hoche la tête.
Oui, après on rentrera à Roanne.
Quand ?
Elle déglutit et reporte son regard sur la route. C'est plus facile pour réfléchir à une réponse à lui donner.
Quand tu te porteras mieux ?
On est là pour l'air pur de la montagne, pour mon cerveau.
Il lui repose régulièrement ces mêmes questions, comme pour s'assurer qu'il a bien compris, qu'il n'a pas oublié. Tout doit être tellement confus dans sa tête. Il a besoin de s'entendre répéter les choses.
C'est exactement ça, Émile.
Elle a réussi à le rassurer. Il se renfonce dans son siège et laisse balloter sa tête contre la vitre.
Hippolyte m'a parlé d'un endroit où l'on pourrait s'arrêter avant d'arriver à Lesquin. Disons pour 2 ou 3 jours. Un endroit tout près d'ici.
Ah ouais ?
Dans la vallée d'Ossau, qu'on est en train de traverser, il y a une réserve naturelle et il s'agit d'un des plus grands repères de vautours. Il paraît que si on monte tout en haut de la Penne de Béon, on peut voir tournoyer dans le ciel des vautours fauves et des percnoptères d'Égypte.
Elle a réussi à obtenir son intérêt. Il la regarde avec un air incrédule.
« Ah bon ?»
Elle confirme d'un hochement de tête.
« Alors, ça te tente ?»«
Ouais, ça me tente. »«
Super, on y va. »
Pendant quelques secondes, le silence emplit l'habitacle et puis la tête d'Émile se tourne de nouveau vers elle.
« C'est quoi un trucoptère d'Égypte ?»«
Un percnoptère d'Égypte. »
« Comment ?»
Percnoptère. P-E-R-C-N-O
et ptère.
Voilà.
Ils sont en train d'installer leur petite table pliante et leurs 2 chaises devant le camping-car. Ils n'ont pas mis plus d'un quart d'heure pour atteindre le village d'Astbéon, véritable repère des vautours. Ensuite, ils ont trouvé un petit chemin de terre et de cailloux qui s'enfonçait dans un pré laissé à l'abandon. C'est là qu'ils ont décidé de stationner leur camping-car.
Je fais un thé ? Propose Émile.
« Volontiers. »
Joanne en profite pour sortir les draps encore humides qu'elle a mis à laver avant leur départ dans la machine à laver de l'annexe chez Hippolyte. Elle les tend entre 2 chaises en équilibre précaire. Elle espère qu'un souffle de vent ne les fera pas voler. Ils sentent encore le savon de Marseille et une petite touche plus fruitée. En attendant, Poc fait le tour du camping-car en reniflant.
« Tu t'en sors ?»
demande-t-elle en passant la tête par la porte du camping-car. Les dernières fois qu'Émile a voulu faire de la cuisine chez Hippolyte ou simplement chauffer de l'eau, il a fini par oublier le feu et Joanne est arrivée à temps pour éviter la catastrophe. Mais cette fois-ci, Émile est concentré devant la bouilloire. Ses yeux suivent le mouvement des bulles à travers le plastique blanc. Joanne se hisse sur la pointe des pieds pour récupérer la jolie théière ainsi que 2 authentiques tasses en porcelaine qu'ils ont acheté un matin de novembre en bord de mer à Gruissant. Puis elle récupère la petite boîte en fer dans laquelle elle a stocké le thé vert aux amandes, acheté également à Gruissant. Elle s'active devant le plan de travail quand la question d'Émile tombe un peu brutale.
« Tu as été mariée ? »
Elle ne comprend pas tout de suite d'où lui vient cette question. Puis elle surprend son regard étonné posé sur son annulaire.
« Tu as été mariée 2 fois ?» demande-t-il de nouveau, avant qu'elle n'ait pu répondre.
« Pardon ?»«
Tu as 2 alliances ?»
Elle a leurs 2 alliances à son annulaire, effectivement. Un matin de janvier, à l'annexe, elle a trouvé celle d'Émile sur le sol. Il avait dû la retirer en se demandant ce que ce semblant d'alliance en acier faisait à son doigt. Il avait dû la poser sur sa table de chevet d'où elle avait dû chuter. Elle l'avait récupérée sur le sol et elle l'avait mise à son doigt au-dessus de la sienne.
« Ah, non !»
répond-elle en ne pouvant s'empêcher de sourire de la question.
« Non, je n'ai pas été mariée 2 fois. »«
Pourquoi t'as 2 alliances ?»«
Parce que... »
Elle verse l'eau dans la théière en cherchant une réponse qui conviendrait.
« Parce que mon mari la perd tout le temps, alors je suis obligée de la porter à sa place. »
Elle le voit du coin de l'œil qui acquiesce.
« Pourquoi il la perd ?» demande-t-il.
« Oh, il est un peu tête en l'air. »«
Ah ?»
Elle repose le petit couvercle en porcelaine sur la théière et la dépose sur un plateau. Elle s'apprête à lui suggérer de prendre les tasses et de la poursuivre dehors, quand la voix d'Émile retentit de nouveau.
« Il a des trous de mémoire, lui aussi ?»
Elle repose le plateau sur le plan de travail et lui sourit.
« Oui, lui aussi. »
« Il n'a pas oublié que vous êtes marié, quand même ?»
Il a des petits yeux ébahis et horrifiés.
« Il faut espérer que non, »
répond-elle avec un haussement d'épaule désinvolte.
« Bon, on le prend, ce thé ?»
Le village d'Astbéon est surplombé par la Penne de Béon. Cette falaise abrite une colonie de vautours déclarée espèce protégée. C'est dans les creux et renfoncements de la roche que ces derniers trouvent refuge. Et c'est là qu'ils se rendent cet après-midi, avec leur sac à dos et leurs 2 gourdes. Joanne freine régulièrement l'allure galopante d'Émile.
« Ne t'épuise pas, va moins vite, on a le temps. »
Elle a peur de le voir s'effondrer sur le chemin d'une nouvelle chute de tension brutale. Il grimpe sous une douce chaleur, s'arrêtant de temps à autre pour observer les vallées en contrebas, les troupeaux de moutons ou de vaches qui paissent, les lacets caillouteux qui serpentent dans la verdure. Une fois là-haut, ils attendent près d'une heure avant de pouvoir assister à l'envol du premier vautour. Assis patiemment sur l'herbe, les jambes croisées, Émile s'impatiente et arrache des brins. Joanne lui apprend à faire un bracelet de pâquerettes, mais elle voit bien qu'elle l'ennuie. Et puis enfin, ils entendent ce claquement sec dans l'air, ce bruit d'ailes gigantesques qui se déploie. Ils assistent, ébahis, à l'envol majestueux d'un immense rapace à quelques mètres d'eux. Il leur faut plusieurs minutes pour arracher leur regard du ciel où, du rapace, il ne reste qu'un minuscule point noir. Joanne parle en premier.
« On reviendra demain ? J'emporterai mes toiles. »
Émile acquiesce et demande fébrile.
« C'était un percnoptère d'Égypte ?»
3 mars, Astbéon, soleil tout doux de printemps, au camping-car assis à la banquette. Je n'ai jamais vu des rapaces d'aussi près. Quand il s'est envolé juste à côté de moi tout à l'heure, c'était plus impressionnant que tout ce que j'ai jamais vu. Ces oiseaux sont immenses. Ils pourraient presque nous briser la nuque d'un seul coup de bec. La fille dit que non, mais je ne pense pas qu'elle soit spécialiste des vautours. J'adore ce village et surtout la falaise aux vautours. La fille dit qu'il y a un musée sur les vautours dans le bourg et qu'on pourrait y aller demain. Elle dit qu'après ça, je serais sans doute capable de reconnaître un percnoptère d'Égypte. Elle m'a dicté le nom, je ne me souvenais plus comment l'écrire. En tout cas, j'ai hâte d'être demain.
Ils ont repris le chemin de la Penne de Béon après le repas. Ils y sont depuis près de 2 heures maintenant. Joanne a déjà peint le ciel, les vallées en contrebas. Elle fait une pause avant de se lancer dans la tâche la plus compliquée, peindre un vautour fauve. Elle repose son pinceau et lève le visage de sa toile. Émile est juste à côté d'elle, un gros volume en joli papier glacé sur les genoux. Ce matin, ils sont allés, comme elle le lui avait promis, à l'espace muséographique La Falaise aux Vautours. Émile, qui a des difficultés à se concentrer depuis Noël, est resté parfaitement calme pendant 2h30, les yeux rivés sur les immenses photographies exposées. Dans la boutique de souvenirs, elle lui a acheté un beau volume aux pages de papier glacé regroupant les principales espèces de vautours. Depuis, il ne le lâche plus. Elle ne peut s'empêcher de songer qu'il lui fait penser à son petit homme quand il est absorbé dans ses images de rapaces comme maintenant. Il lui fait penser à son petit homme quand il peignait son bleu. Ce soir-là, Joanne décide de ressortir le vieux Monopoly de Myrtille. Émile a l'air surpris en voyant la boîte abîmée et cornée et le sigle en franc.
Comment t'as eu ça ?
Une amie me l'a donné.
Une vieille amie, alors ?
Elle acquiesce. Émile la regarde sortir le plateau de jeu et l'étaler sur la table devant la banquette.
Marjo détestait ce jeu. Elle aurait jamais joué à ça avec toi.
Joanne hausse les épaules en continuant d'installer les billets qu'elle trie par couleur.
Mais toi, tu aimes jouer ?
Il fronce les sourcils.
Comment tu le sais ?
Je le sais.
Tu es un genre de devin ?
Peut-être bien.
Il consent enfin à prendre place sur la banquette à côté d'elle pendant qu'elle pose deux pions, un jaune et un vert, sur la case de départ.
Marjo ne veut jouer qu'au domino, indique-t-il en se saisissant du dé.
Ah bon ?
Tu le sais, puisque t'es son ami, non ?
Il la sonde. Elle acquiesce.
Oui, bien sûr.
Vous êtes dans la même école ?
Pardon ?
Marjo est en CM2. Et toi ?
Elle lui désigne la case pour qu'il avance son pion. Il a fait 3.
Ah ! Eh ben, moi aussi, je suis en CM2.
Quelques jours en arrière, il prétendait avoir rendez-vous à la cafétéria de la fac avec Renaud. Ce soir, le voilà qui retombe à l'école primaire.
Émile,
murmure-t-elle quelques secondes plus tard.
Ouais ?
Il va falloir qu'on parte demain, pour rejoindre le petit hameau dont Hippolyte nous a parlé.
Elle s'attendait exactement à cette déception sur son visage. C'est pourquoi elle a préféré le prévenir dès ce soir.
Y aura des vautours là-bas ?
Je crois pas.
J'ai pas vraiment envie d'y aller.
Alors on peut faire un deal.
Quel deal ?
On retourne à la falaise aux vautours demain et ensuite on part.
Elle le voit acquiescer et relancer le dé.
D'accord. Et après on rentre à Roanne.
Elle préfère ne rien répondre.